Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste midi olympique. Salut Arnaud.
Salut, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, hein, Raf nous servira à son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Terry Bourawa, ancien capitaine de France 7, le premier joueur à avoir signé un contrat fédéral pour se consacrer exclusivement à cette discipline. Avec le succès évidemment qu'on lui connaît, il est devenu au fil des années un des joueurs les plus redoutés du circuit mondial. Il en a été un des meilleurs marqueurs également. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi, il sera avec nous depuis Mexico et nous expliquera donc les raisons de sa présence au Mexique. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain Rafute. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, et évidemment la plateforme Eurosport. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Rafute, saison 6, épisode 36, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raph, cette semaine, tu aimerais revenir sur les déclarations de Sébastien Vamaina, contraint de mettre un terme à sa carrière après une dernière commotion survenue en décembre dernier, et notamment sa colère vis-à-vis du club de l'ASM Clermont-Auvergne. C'est bien ça, Raph ?
Mais Arnaud, mais qu'est-ce qui se passe à Clermont-Ferrand après la sortie médiatique de Jamie Cudmore, celle d'Alexandre Laprandi, qui ont déposé d'ailleurs tous les deux plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui? C'est au tour de Sébastien Vamaina de prendre la parole sur la mauvaise gestion des commotions cérébrales par le club auvergnat. Alors, j'avoue qu'en lisant les différents articles de ces trois anciens joueurs, j'ai comme l'impression que le terme « chair à canon » prend tout son sens à grands coups de « bah, vas-y, retourne-y, il n'y a pas de mal, allez, champion, une petite tape sur les fesses et c'est reparti ». Alors, je caricature, certes, mais pas tant que ça. Si encore, il n'y en avait eu qu'un. En bon abruti que je ne suis pas, je dirais que le mec crache dans la soupe, il veut récupérer de l'oseille, il arrive en fin de carrière et veut se caler une retraite dorée. Bon, un deuxième qui parle. Là, je me dis, en bon français, bon, les mecs se les pèlent en Auvergne et bon, veulent grappiller un peu d'oseille pour s'acheter quelques tonnes de bois en plus pour affronter l'hiver. Ah tiens, un troisième. Là, il faut arrêter d'être con et voir la vérité en face. L'ASM a un vrai problème de gestion de l'homme concernant la commotion ou les commotions cérébrales. J'ai fait la tournée des pôles espoirs il y a 10 ans. Et un directeur de pôle, que je ne citerai pas, m'a dit clairement et droit dans les yeux, on sait qu'on fait de la chair à canon, mais il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. C'était en 2013, il y a 10 ans. Et j'ai été choqué qu'un responsable, me parle de la nouvelle génération en ces termes et que nos futurs rugbymen soient considérés comme des bouts de barbac. Alors certains me diront « Ah, oh, ils vont pas se plaindre avec ce qu'ils sont payés ». D'autres ajouteront « Ils vont s'en remettre, c'est pas 2 KO ou 3 KO qui vont affaiblir ces gros colosses ». Alors, il est peut-être là le problème. À force de mettre nos chers héros sur un piédestal à grands coups de représentation mythologique, on ne comprend pas que ces hommes et ces femmes soient humains et que ces problématiques de commotion sont souvent irréversibles. Pour les plus sceptiques, je vous invite à regarder le film « Seul contre tous » avec Will Smith sur le football américain. Le rugby français se dirige tout droit vers ses issues fatales outre-Atlantique et j'ai bien peur que la fameuse génération que j'ai croisée en 2013 à force de tirer sur la corde et sur les corps ne prenne de plein fouet les problématiques et les problèmes cérébraux que Vamaina, Laprandi et autres connards, et puis bien d'autres encore, sont en train de subir. Alors je ne souhaite pas, car j'aime mon sport, mais des solutions doivent être mises au jour et il faut protéger celles et ceux qui nous font rêver. Et qu'on ne vienne pas me dire que le rugby n'a rien à voir avec le football américain. La seule différence, c'est qu'outre-Atlantique, ils ont des protections et sont maintenant protégés aussi par les instances dirigeantes de leur club. Et, il y en a une autre différence. C'est qu'aux États-Unis, il a fallu attendre plusieurs suicides pour qu'on se penche sérieusement sur le sujet. Je crois que quand on a merdé, il est important de reconnaître nos torts. L'ASM doit reconnaître ses torts, ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont porté haut et fort les couleurs de leur club. Bon courage, messieurs.
Allez, deuxième partie dans Poulain Rafute aujourd'hui avec nous. On a la chance, avec Raphaël, de recevoir Terry Bourawa, ancien capitaine de France 7, le premier joueur à avoir signé un contrat fédéral pour se consacrer exclusivement à cette discipline. Avec évidemment le succès qu'on lui connaît, il est devenu au fil des années l'un des joueurs les plus redoutés du circuit mondial. Il en a été un des meilleurs marqueurs également. Mais Raph, si tu tenais à recevoir Terry aujourd'hui, je crois que c'est pour une autre raison que tu vas nous expliquer.
Alors oui, je ne vais pas dire que Terry, c'est la famille, parce qu'on va parler de Boris, justement, la famille, c'est la famille, les frangins, c'est les frangins. On connaît le rugby, pendant 80 minutes, c'est les frangins, et puis après. Mais on a un lien particulier, je pense que tous les deux, depuis, je vais dire, une petite quinzaine d'années, je t'ai vu débuter, Terry, et puis derrière, après, tu es venu à ma conférence en 2013, et puis derrière, enfin bref, on a eu l'occasion de vraiment changer. Et d'ailleurs, je ne vais pas me spoiler dans mon portrait, donc avant tout, je ne vais pas me spoiler comme je dis, je vais te poser la première question. Déjà, bonjour Terry.
Bonjour Raph, bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Donc les gens doivent savoir qu'on enregistre ce podcast alors que tu es en direct de Mexico. Donc au Mexique, oui, c'est pas à Vesoul ou dans l'Oise, c'est bien au Mexique, il y a 8 heures de décalage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es ici, s'il te plaît?
Alors pourquoi? Parce que ça fait maintenant 2 mois que je suis ici et que j'ai accepté une mission comme directeur technique, sportif, tu vois, c'est des grands mots, hein, ça fait peur. Mais... C'est juste, voilà, j'ai accepté un poste de directeur sportif pour essayer d'organiser les équipes nationales à 7, parce que la fédération, elle a envie d'essayer de grandir. Et en plus de cela, j'ai une mission qui est d'aller dans les États, parce que c'est un grand, grand pays, avec une petite culture rugby. Et j'ai une de mes missions, c'est d'aller dans les États pour essayer de former les entraîneurs. J'aime pas trop tous ces mots parce que ça fait voilà, c'est moi ce que j'aime surtout c'est partager. Donc je vais essayer de partager au mieux. Ceux qui veulent prendre, ils prennent. Et puis voilà, ce que j'aime bien c'est ça en fait, c'est partager le rugby, partager ce que j'ai eu la chance de vivre ici en Europe qui est différent. Puis voilà, essayer de faire grandir un projet et se sentir utile, c'est bien.
Comment ça t'est arrivé? Comment que d'où ça te vient que le Mexique te sollicite? T'avais un cousin mexicain ou un boxeur mexicain? Je sais pas.
Alors, tu sais très bien que les cousins ils sont pas au Mexique. Il y
Non,
en a
mais je sais, oui, mais il
peut-être
peut y en avoir au Mexique, vu
un
que là, un
qui
grand pays de
Oui,
boxe et que
oui.
vous êtes une famille de boxeurs, quand même, c'est pour ça que je faisais le lien, mais complètement
Non.
pourri, c'est cadeau, mais voilà.
Non, 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 même pas. Même pas. Mais non, en fait, le lien s'est fait il y a à peu près 10 ans avec l'ancien président de la Fédération mexicaine qui s'appelle Francisco Echeguren, qui était donc à l'époque président de la fédération. Et en fait, que j'ai rencontré une fois au tournoi de Hong Kong, parce qu'une fois, ils avaient été invités, et il s'avère que Francisco parle très bien français, et puis un jour, on s'est mis à discuter dans le bas de l'hôtel, pour parler rugby. Et puis voilà, on est resté en contact pendant 10 ans, tu sais, avec les réseaux, machin, donc on est devenus amis. Et moi, quand j'ai arrêté de jouer, mon idée première, elle n'était pas d'entraîner. Je te cache pas, j'aime pas trop le. Enfin, c'est pas que j'aime. Moi, comme je te disais, entraîner, c'est un bien grand mot, tu vois. J'aime bien transmettre. Et en France, bah, c'était pas trop mon état d'esprit, tu vois. C'était pas mon état d'esprit. Et donc voilà, bah, tu sais, je suis passé par le creux de la vague. Donc, je me suis posé plein de questions, savoir que faire, quoi faire. Et puis voilà, après je te dis, un jour j'ai recontacté Francisco, j'ai dit écoute, moi j'ai arrêté. Je ne sais pas où vous en êtes avec la fédération, mais si vous avez envie de je sais pas, d'apporter une pierre à l'édifice, un truc un peu différent pour essayer de grandir, bah écoute, moi un projet humain, enfin un projet à taille humaine, ça me plairait bien. Donc, il m'a mis en relation, c'était à l'époque, on était avec mon frère Boris, on était avec l'Algérie. Il m'a mis en relation avec le nouveau président Ernesto. On a discuté, moi j'ai mes idées rugby, tu sais comment c'est. J'aime bien bah voilà, partager, transmettre. Et donc voilà, j'ai un peu exposé mes idées. Ça a matché, puis on a trouvé une manière de travailler. Donc aujourd'hui, là, ça fait 2 mois. Et puis voilà, la chance que j'ai, c'est qu'on est dans un cycle pour parler un peu plus rugby, tu vois, un peu plus sérieux. On est dans un cycle parce qu'il y a les Jeux centra-américains, les Jeux panaméricains. Et donc, moi, ce qui me permet comme ça d'avoir quelques mois d'observation, tu vois. Là, en ce moment, je suis en train de voir comment ça se passe un peu partout. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on va essayer d'améliorer, tout ça. Et puis voilà, l'aventure, elle commence petit à petit. On est là.
Alors, on va en parler justement, Thierry, de cette aventure. Mais messieurs, avant de poursuivre vos échanges, que j'imagine très riches, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Thierry. Alors, Bourawa façon poule à rafute, Thierry, tu vas le voir, c'est un peu différent. Et c'est maintenant.
Ouais, j'ai une idée.
Oui, Thierry, la dernière fois qu'on s'est vu, je te le disais tout à l'heure, et qu'on a échangé, c'était à Jean-Bouin avec ton frangin Boris qui s'occupe de la formation. D'ailleurs, on va aussi en parler. Tu étais un peu, comme tu viens de le dire, au fond de la gamelle, au fond du seau, au fond du sac. Et tu en as très bien parlé d'ailleurs à cœur ouvert dans la petite interview qu'on a fait ensemble. On a toujours eu, je pense que je te le disais, ce rapport d'amitié tous les deux. Et c'est toujours avec un large sourire qu'on se croise, qu'on échange sur nos moments de vie, beaux, très souvent et compliqués parfois. des moments rares où on se dit, quand on Raphaël est terrible, il n'y a pas besoin d'armure, c'est fluide. Et ça fait du bien de se livrer sans peur d'être jugé. Moi, je me souviens aussi que dans cette période de creux d'après-carrière de 2013, tu avais été à l'écoute comme un petit frère devenu grand l'espace d'un instant. Et je me souviens aussi qu'il n'y a pas très longtemps, Jérôme Fillon m'a appelé, inquiet d'un post LinkedIn que tu avais posté, où il y avait lu et vu, lui aussi et moi, comme un cri d'alarme d'un type en fin de carrière et un peu perdu. On t'a appelé et je pense que comme en 2013, comme tu l'avais fait, ben voilà, comme des confrères, des compatriotes, des potes, des camarades, des amis, chacun y mettra ce qu'il veut, hein, qui viennent aux nouvelles et qui s'enquièrent de celle ou celui qui ne va pas trop bien, qui n'est pas au top, et ben ça humanise, ça apporte du réconfort dans ces moments compliqués. Thierry, je t'ai suivi tout au long de ta carrière, du Stade français à Béziers, surtout en équipe de France à 7, et tu m'as fait lever de mon canapé, de mon lit aussi, quand tu jouais au bout du monde à 4h du matin. Mais là où je suis le plus fier de toi, c'est que ben, tu as su rebondir à chaque fois. Sûrement grâce au soutien familial et amical, mais aussi et même surtout grâce à cette force de caractère. Alors Thierry, entrons dans le vif du sujet. Tu t'es récemment confié aux médias, Seven Rugby, sur ta situation personnelle. Je viens d'en parler et tu racontes notamment la grave dépression que tu as connue à la fin de ton aventure en France en 2007. Avec France 7 en 2021, excusez-moi, j'essaie de ne pas me perdre. C'était il y a 2 ans et tu as notamment déclaré « Le pire, c'est de perdre le sens de sa vie. Et moi, c'était le rugby qui donnait du sens à ma vie, à la mienne. » Tu sais que ça va s'arrêter un jour, mais tu n'es pas tout à fait conscient que c'est le sens de ta vie qui va s'arrêter. Est-ce que tu peux un peu juste... On va parler rugby, hein, t'inquiète pas. On ne va pas parler grande stratégie non plus, mais j'aimerais que tu...
Non, surtout pas la stratégie.
Ah ben, tu me connais, hein, ça va. Non, alors, tu peux développer un peu cette période. Après, on passera à autre chose, mais je pense que c'est important de témoigner aussi, d'humaniser un peu
tout ça. Bien sûr. Donc, d'abord, merci Raph, parce que comme tu le dis dans ton portrait, effectivement, on s'est eu quand ça allait pas, et j'ai l'impression que dans ce nouveau rugby, c'est aussi de plus en plus rare. Et je crois que ce qui nous lie à nous deux, en tout cas, c'est notre sensibilité. Je crois qu'on a ce point commun là, c'est cette sensibilité. Et effectivement, quand on a la chance de se croiser, ça match sans armure, sans rien. Donc déjà, merci à toi, à Jérôme Piolle, et puis les autres. Il y en a plein d'autres qui ont réagi quand même, parce que bon, voilà, c'est vrai que bah, voilà, je me suis livré, je me suis rendu compte que j'étais au fond, et c'est comme ça. Et effectivement, quand on est la tête dans le guidon, on se rend pas compte. Moi, c'était tu sais, être joueur de rugby comme beaucoup de joueurs, c'est d'abord ça commence par être un rêve de gosse. Après, ça s'entrouvre un peu, tu sais, les années sport-études, les trucs là où tu as l'impression que tu sais, tu vas devenir un grand joueur. Et puis après, voilà, avec à force de travail, de sacrifice, il y en a qui ont la chance de partir dans le wagon, et d'autres pas. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver au Stade français dans l'une des meilleures périodes. Avec Fabien Galthié à la tête, donc c'est aussi plus facile de lancer des jeunes, et en fait c'est de fil en aiguille, c'est comme ça que du coup moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, j'ai tout sacrifié pour le rugby, parce que je savais que en fait depuis le début je savais que ça allait s'arrêter à 35 ans, parce qu'on le sait, tu vois, c'est comme ça, le corps à un moment donné, voilà, et puis il y a du monde, et puis c'est comme ça, et donc je me suis jeté à corps perdu, à en oublier le reste, la vraie vie, le truc. Et donc nous, on rentre dans notre wagon là de joueurs de rugby qui nous emmène sur une autre planète. Et on y est bien au bout du compte, parce qu'on a des sacrifices, on vit notre passion, voilà, on a un rythme de vie qui est bien. Sauf que la réalité, c'est qu'on oublie, enfin moi, ce que j'appelle la vie normale, tu vois. C'est pas une question de perdre la face ou de prendre la grosse tête, parce que ça, je pense pas que c'est quelque chose à voir, en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est un peu en parallèle de la vie normale, comme, je sais pas, moi, il va y avoir d'autres professions qui sont comme la nôtre aussi, tu vois. Et après, comme je le dis aussi un peu dans l'article, en fait, après, la chute, elle dépend aussi de la sensibilité de chacun, tu vois. La sensibilité de chacun, et puis la capacité ton armure, tu vois. Moi, comme je te dis, j'ai tout sacrifié, j'ai eu la chance de faire mes premiers matchs à 18 ans. L'année où je passe mon bac, je loupe mon bac, on me dit tu vas repasser ton bac ou tu vas aller t'entraîner tous les jours, et je dis ouais, bah merci, au revoir, tu vois. Et puis voilà, et puis mais après, au bout du compte, j'ai pas de regrets. J'ai zéro J'ai zéro regret.
Déjà, Thierry, la vie de rugbyman, déjà, elle est assez exceptionnelle et extraordinaire. Mais la vie de rugbyman
Bien sûr.
aussi à 7, c'est que là, tu voyages. C'est-à-dire que tu es partout à travers le
Ah
monde. C'est encore différent, c'est encore différent.
ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, la chute, elle était encore plus dure parce que, en fait, moi, j'estime que, tu sais, parce que tout est lié à mon rêve de gosse, tu vois. Et en fait, j'ai été servi plus que ce que j'avais rêvé quand j'étais gosse, tu vois. Et donc, tu te doutes bien que, bah, tu sais, quand ça dure 17 ans, le professionnalisme, bah, ça te change un peu, bah, ça te change qui tu es, ça te change ta vie, tu vois. Et puis, quand ça s'arrête, tu le sais très bien, ça s'arrête du jour au lendemain, tu vois. On ne dit pas, bon, alors, tu vois. Et puis, quand bien même, bah, si. D'un côté, on nous le dit, on nous prépare. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui était important pour moi quand j'étais joueur de rugby, c'était de me préparer, c'était d'essayer de gagner des matchs, c'était d'être le meilleur, tu vois. Et j'étais pas assez. En fait, je crois pas que j'ai la capacité de faire deux choses en même temps, tu vois. J'ai eu ma carrière de joueur de rugby, j'ai été incapable de faire une formation en parallèle, incapable de mener une vie sentimentale aussi, tu vois. Donc y a peut-être pas de hasard non plus. Et en fait, c'est ça, quand je dis je me suis jeté à corps perdu, en fait, c'était mon seul et unique truc, quoi. Et il y a un jour, ça s'arrête, tu vois. Et en fait, voilà, ça s'arrête. Tu penses que tu vas avoir les reins solides. Parce que tu te dis, voilà, moi, je suis quelqu'un de normal. Tu me connais, ma famille, on était modeste. Moi, je me suis toujours battu pour jamais prendre la grosse tête. Mais c'est pas une question de prendre la grosse tête. C'est juste une question, c'est qu'en fait, pendant 17 ans, tu vis dans un monde, dans un truc qui s'arrête du jour au lendemain, quoi.
Est-ce
Et
que tu
voilà, et tu
regrettes,
te retrouves.
Thierry?
Ouais,
Pardon,
pardon,
excuse-moi,
pardon.
pardon de te
Vas-y,
couper. Est-ce
vas-y.
que tu regrettes justement, Thierry, peut-être le manque d'accompagnement en direction des sportifs qui prennent leur retraite? Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, les sportifs, c'est peut-être vrai en rugby, mais c'est aussi peut-être dans d'autres sports. Tu as eu la chance de faire les Jeux Olympiques en 2016 à Rio, donc tu as côtoyé aussi d'autres sportifs. Est-ce que les sportifs sont suffisamment accompagnés justement pour appréhender au mieux cette après-carrière?
Bah, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, en 2023, ouais, on a, même moi, je vais pas vous mentir, c'est qu'on avait la possibilité, tu vois. J'ai attaqué des formations, on a la possibilité de faire des trucs. Mais après, comme je le disais, il faut en avoir la capacité, tu vois. Je pense qu'il y a des joueurs, je sais pas moi, mais si j'ai envie de prendre, tu vois, j'ai envie de prendre mon ami Antoine Durban, tu vois. C'est un joueur un peu atypique. C'est quelqu'un dans n'importe quoi qui enfin dans n'importe quel domaine qui va se lancer, il va y arriver, tu vois, parce que c'est comme ça, parce que c'est Antoine, tu vois. Et moi, par exemple, je crois que je fais partie de ces personnes qui n'avaient pas la capacité de faire plusieurs trucs en même temps. Donc c'est pas que on n'est pas assez accompagné, c'est peut-être c'était pas adapté à la personnalité que je suis, tu vois. Mais après, non, aujourd'hui en 2023 quand même. Bah, c'est aussi le travail des centres de formation. On a la possibilité de faire des formations, de faire des trucs. Mais c'est dur. C'est dur
Est-ce
parce
que
que.
ce projet de directeur des équipes du Mexique à 7, tu l'as aussi qualifié de lumière au bout du tunnel? Et en quoi cette opportunité, toi, elle te permet aujourd'hui de redonner finalement un sens à ta vie? Et tu restes encore, ça reste encore rugby en fait.
Ouais, ça reste rugby. Mais après, je te dis, là, enfin, en tout cas, j'espère que mon état d'esprit il a changé. C'est une lumière au bout du tunnel dans le sens où, bah après, comme je le dis, tu vois, en fait, le plus dur, c'est pas que le rugby s'arrête, c'est de perdre le sens de la vie, quoi. C'est qu'en fait, moi, je me suis retrouvé, bah, pour imager, tu vois, je me suis retrouvé dans un monde obscur, noir, sans les codes. C'est les codes normaux, tu sais. Je me rappelle, j'étais dans Paris des fois, parce que j'ai squatté un peu chez mon frère Boris, tu vois. J'étais dans Paris, des fois on prenait le scoot vers 18h, et tu sais, à 18h, tu vois les gens qui sont en terrasse en train de boire des coups entre collègues et tout, tu vois. C'est ça la vie. Sauf que ça, moi, je l'ai jamais fait, moi, ça. Je sais pas faire.
Un Indien dans la ville, quoi.
Putain, laisse tomber. Et sauf que tu es là, et sauf que la vérité, c'est que nous aussi, on est, tu vois, tu l'as fait pendant 17 ans, tu es compétiteur, donc c'est te voir, c'est au fond du trou, c'est dur à accepter aussi, tu vois. Tu veux rebondir, tu veux rebondir vite. Et en fait, sans avoir les codes et tout ça, t'arrives même pas à savoir qu'en fait, ça va prendre du temps. Il faut accepter de
Accepter de
rien
tomber
faire
en fait.
parfois. Ouais,
Faut accepter de
accepter de
tomber.
tomber, accepter de rien faire, accepter le nouveau rythme de vie, accepter de réapprendre des codes, tu vois, que t'as oublié. Et en fait, ouais, la lumière, c'est ça, c'est que ça redonne un sens à ma vie, en fait, le sentiment d'utilité. C'est ça qui est important pour un être humain, tu vois. C'est
Est-ce
qu'à
que
un
tu
moment
peux nous
donné.
parler d'ailleurs, Thierry, de ta mission, de tes objectifs concrètement qu'est-ce que là, tu nous as parlé que tu allais faire un peu le tour des différents États du Mexique pour voir un peu les structures qui sont en place aujourd'hui. Est-ce que déjà tu t'es fixé des objectifs au cours de cette mission?
Bah, moi déjà, l'objectif premier en venant ici, il est un peu personnel, individuel, hein, c'est sortir un peu la tête du truc. Et puis après, je te dis, j'ai aussi beaucoup, enfin, je pense qu'inconsciemment, j'ai réfléchi par rapport à l'image du rugby et tout ça. Tu sais, enfin, je crois, j'ai été un joueur, j'ai essayé d'être le plus professionnel, pardon, possible, donc faire les choses bien dans l'ordre, s'entraîner beaucoup, truc. Et après, aujourd'hui, enfin, dans la posture dans laquelle je suis, c'est un peu différent, tu vois. Effectivement, il y a l'humain, tu vois. L'humain, tu sais, si tu me demandes les objectifs, aujourd'hui, pour moi, c'est de transmettre au mieux, c'est de partager mes connaissances et c'est de vivre des émotions, en fait, de faire vivre des émotions aux gens. Parce que, comme je le dis aussi, tu vois, pour moi, en fait, le rugby, c'est un prétexte, tu vois. Le rugby, pour nous, c'est un prétexte à vivre des émotions. Et ça, malheureusement, quand on est dans le monde professionnalisme, à la tête dans le guidon avec tout ce qu'on nous demande, on en oublie en fait l'essentiel. L'essentiel, c'est que le
L'enjeu
rugby.
dépasse le jeu, en fait.
Bien sûr, sauf que tu le sais très bien, c'est que quand ta carrière elle s'arrête, tu te souviens pas si tu as gagné 30 à 10 ou je sais pas quoi. Ce que tu te souviens, par contre, c'est les regards, c'est les odeurs, c'est les trucs qui s'achètent pas, tu vois. C'est
Et d'être
les trucs.
utile, et d'être utile. Franchement, ce que tu as
Ouais.
dit, c'est fort parce que c'est vrai. C'est à quoi je sers dans le monde d'après? À
Bien
quoi je
sûr, c'est
sers? À
ça.
quelle entreprise va me. J'ai joué à 7, j'ai un putain de palmarès, j'ai fait les JO, j'ai joué au stade, j'ai.
Ouais.
Mais quelles sont mes compétences dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce que je peux monter
Bah.
comme boîte? Est-ce que c'est pas une fuite en avant? Comment j'aime ma femme? Comment je. Oh, et c'est
Horrible.
ça, hein? Tu sais plus,
Bah ouais, parce que.
tu tombes.
Bah ouais, parce qu'en plus, tu te dis inconsciemment, bah moi, je sais faire que du rugby de manière. Sauf
Ce
que.
qui est
Sauf que
déjà une
rugby.
putain de compétence, en fait.
Ouais, mais sauf que quand tu peux plus jouer, tu vois, parce qu'il y a joueur et il y a transmetteur, tu vois. Entraîneur, c'est pour les grands, tu vois.
Mais tu vas
Moi,
y
je suis un
venir parce que
transmetteur.
justement, alors tu vas y venir, mais tu as choisi encore. Tu vois, ton parcours, il est à la fois atypique, mais tu choisis encore un pays qui pue pas le rugby, quoi. C'est comment ça se pratique le
Ah non.
rugby au Mexique? C'est quelle est la place déjà du rugby à 7 par rapport au rugby à 15 là-bas?
Bah, le rugby à 7, il est prioritaire. Oui, il est prioritaire parce que bah, c'est plus facile de monter une équipe à 7 qu'une équipe à 15, tu vois. Puis moi, voilà, ma lutte, elle est là aussi. C'est de leur expliquer que de toute manière, la réalité, c'est celle-là aussi. C'est que si tu veux des résultats, tu les auras plus vite à 7 qu'à 15 parce que le rugby à 15, aujourd'hui, tu as vu comment il va à 10 000, tu vois. Et je pense que le wagon du rugby à 7, il est un peu plus accessible, même si on a beaucoup de retard. Et ouais, c'est atypique parce qu'après, je te dis une fois encore, c'est le sentiment de se sentir utile, tu vois. Moi, j'ai eu cette opportunité-là, j'ai l'impression qu'on avait envie, tu sais, moi, je suis un joueur, je suis une personne, j'aime bien qu'on m'aime, tu vois. J'ai besoin d'amour, tu vois. Et là, on me l'a donné, tu vois. On m'a fait confiance, on m'a donné de la confiance, et puis après, je te dis, j'aime bien me sentir utile. Et puis, il y a aussi la vérité, c'est que j'ai pas eu d'autres appels. Hein.
Là justement, alors là, si ça se passe bien là-bas, est-ce que alors non, la question, je vais te la poser directement. Tu aurais aimé en fait que la FFR aussi puisse te proposer ce type de projet, enfin, au vu de ta carrière et l'essentiel de ta carrière de France à 7 quand même.
Ouais, mais enfin, franchement,
Sans être aigri, hein, c'est vraiment. Alors, elle est un peu
non,
délicate
non,
ta question. Hein, je sais qu'il n'y a
non, non,
aucune
il y a
aigreur dans ce que tu pourrais répondre. Mais
non,
il y a quand
non,
même le mec qui a l'un des plus gros palmarès, voire le plus gros palmarès du rugby français à 7. Et qu'on est pas sollicité en tant que passeur, justement, en tant qu'ancien, en tant que référent, en tant qu'ambassadeur du rugby à 7 que tu as été. Il n'y a pas un petit regret là ou un petit pincement au cœur quand même?
non, non, même pas, parce que franchement, en plus, c'est honnête, parce qu'après, voilà, moi je te dis, la conception que j'ai du truc, pour avoir un petit peu, tu vois, essayé d'entraîner, tu sais, avec mon frère Boris pour le Stade français à 7, avec un petit peu l'Algérie, la conception que j'ai de ce travail-là, c'est d'abord, voilà, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je m'en fous, c'est en fait, c'est le contexte. Le contexte, c'est les gens avec qui tu le fais. Parce que je connais un petit peu le rugby français. Je vois comment ça fonctionne dans les clubs professionnels. Je vois qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, pas toujours choisis. Et l'ambiance, c'est de la merde. Et en général, si l'ambiance, c'est de la merde, le résultat, c'est de la merde. Et moi, j'ai pas envie, tu vois, j'ai passé ma vie de rêve, en fait. J'ai déjà vécu ma vie de rêve. C'est pas pour aller, tu sais, le rugby, il nous fait aussi autant de mal que de bien. C'est pas pour y retourner et me retrouver dans une situation avec des gens avec qui, tu vois, il y a pas le feeling naturel, tu vois. J'ai pas envie de faire semblant parce que c'est pas ma façon d'être. Et j'ai plus envie de batailler, tu vois, dans le rugby comme ça. Et puis c'est pas ma conception que j'ai de la transmission. Parce que, tu sais, quand les joueurs, c'est pas des cons. Tu sais, quand ça va pas entre le staff, déjà, le staff, ils se font chier comme des rats, tu vois. Et puis les joueurs, le message, ça passe mal. Et puis c'est pas l'ambiance parce que, comme je le disais, le plus important pour moi, quand on est dans cette posture-là, c'est l'être humain, presque. Moi, c'est pas la
Justement,
prétention.
pardon,
Ouais,
excuse-moi,
vas-y.
Thierry. Non, non, je te laisse terminer, je te laisse terminer, pardon.
Non, je voulais juste dire que moi, j'ai pas la prétention je vais apprendre à personne. Enfin, je vais apprendre à personne à jouer au rugby, tu vois. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Moi, ce que je peux faire, c'est partager mon expérience, partager mon point de vue, ma sensibilité, et
Ouais.
essayer d'améliorer certains joueurs, quoi.
Tu peux peut-être pas apprendre à jouer au rugby à des mecs en France, mais au Mexique, il y a peut-être moyen quand même de pouvoir à ce qu'ils
Non, mais c'est ça.
s'améliorent, c'est ça. Donc tu es parti à
Je me
de.
sens plus utile ici. Et du coup, voilà, la vérité aussi, c'est que la France, la Fédération française d'aujourd'hui, elle a pas besoin de moi. Moi, j'ai pas non plus les armes pour servir l'équipe de France comme je le voudrais. Parce que je considère, voilà, cette équipe, je l'ai aimée beaucoup. Et je considère que, bah, voilà, si tu entraînes l'équipe de France, à un moment donné, c'est pour performer, tu vois. Et moi, je vais pas me prendre pour un aigle, tu vois. Je suis pas un entraîneur de ouf. Donc voilà, et puis aujourd'hui l'équipe de France elle fonctionne bien. Donc, alors effectivement, tout le monde me l'a dit, tu vas finir par entraîner l'équipe de France, machin truc. Enfin, moi je m'en fous, moi je veux me sentir utile, tu vois. Si on n'a pas besoin de moi en équipe de France, j'irai ailleurs, il n'y a pas que le rugby en France, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, la France elle n'a pas besoin, et voilà, faut aller à l'utilité, il faut pas aller là où ça brille et tout ça, tu vois.
Thierry, justement, dis-moi si je me trompe, mais à travers les propos là, que tu tiens depuis qu'on a débuté ce podcast, ce choix de partir au Mexique, quand même, il te ressemble drôlement. C'est-à-dire que c'est un choix de vie un peu atypique, comme tu l'avais fait, être le premier joueur. À signer avec la Fédé un contrat fédéral. C'est une aventure humaine aussi, c'est partir loin, il y a quelque chose qui te ressemble quand même, non?
Je te dis, je crois que j'ai pris goût avec le 7, tu vois. Et puis, je pense que, en fait, depuis tout petit, je suis comme ça. Tu sais, moi, je suis un petit-fils d'immigré, tu vois. Et ça se trouve, il m'a filé la fibre de vouloir partir, tu vois. La fibre de l'exil, que j'appelle ça, tu vois. Et voilà, non, je sais pas, je l'ai en moi. C'est des choses qui, effectivement, c'est des choses qui m'attirent. L'Amérique latine, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, je te dis, il y a plein de choses qui ont fait que c'était la bonne voie, tu vois. Il y a eu cette opportunité, l'Amérique latine, le rugby, tu vois, c'est quand même capitaliser sur quelque chose qu'on connaît, se sentir utile. Donc, tu vois, il y a eu, tu sais, les planètes, elles sont un peu alignées, tu vois. Donc, effectivement,
Il y
c'est
a
un
eu une
petit peu
fuite quelque
atypique.
part ou pas?
Comment ça?
Non, je ne sais pas, de partir de France, que comme je dis, quand on s'est croisé il n'y a pas si longtemps, ça peut être étouffant en
Bah
fait cette
après,
situation, et puis une envie de s'émanciper, une envie
bien
d'aller
sûr.
voir ailleurs si j'y
Bah
suis. Ouais.
après, comme je te dis, je pense que c'est dans mon ADN, tu vois. Le grand-père, il a quitté l'Algérie à 18 ans, tu vois. On est des exilés, tu vois. Peut-être que j'ai plus la fibre que mes frères, que mon père, tu vois. Mais en tout cas, je l'aime bien, tu vois. J'aime bien. Et tu sais, je l'ai retrouvé dans le rugby à 7. Et, tu sais, ça chemine là-haut. Et je me dis que peut-être c'est ça ma destinée, c'est d'être le petit-fils de mon grand-père et d'avoir cette fibre d'exilé, tu vois, que j'aime, parce que moi c'est comme ça que j'apprends la vie, en fait. C'est quand je vais dans le monde entier, tu vois, à chaque fois tu vas prendre un café en bas, tu apprends un truc, tu vois. Et je sais pas, j'ai l'âme qui je me sens mieux, je me sens mieux. J'aime la France parce que c'est l'un des plus beaux pays du monde, tu vois. C'est mon pays et ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je suis en dehors de la France, je suis plus relax parce qu'en fait, j'ai moins les problèmes. Tu vois, tu sais, comme tu ne comprends pas tout, y a des trucs. Tu vois, la politique, par exemple, moi, quand je suis dans mon pays, ça me fait chier de voir dans quel état il est, tu vois. Même si c'est l'un des plus beaux pays du monde, tu vois. Quand je vois les gens qui descendent dans la rue et qu'on les écoute pas, je me dis, putain, tu vois, ça fait chier, quoi. Quand t'es ici, bon, ouais, il peut y avoir une manif, tu vois, la politique ici, parce que c'est pas mon histoire, tu vois. C'est comme si je m'enlevais un petit peu des, tu sais, des poids, tu sais, psychologiques, tu vois. Donc, je me sens un peu plus léger là et je fais moins attention aux choses et je suis plus tourné vers le plaisir, l'être humain et, comme je te dis, partager, transmettre.
Alors j'aimerais,
Voilà.
Thierry, si tu es d'accord, qu'on se retourne plutôt un peu sur le
Ouais.
passé, qu'on reparle un petit peu de ta
Ouais.
carrière, qui a quand même, on
Pas
l'a
de
dit, hein, tu as
problème.
été un des meilleurs joueurs du circuit mondial, un des meilleurs marqueurs également.
Ouais.
Un petit mot quand même, parce que tu as eu la chance de participer à la première Olympiade où le rugby à 7 est revenu dans le Giro olympique, c'était à Rio en 2007. Est-ce que ça reste un regret ou finalement, avec le recul, ça reste quand même un immense bonheur d'avoir pu participer à cette... À ce
Ouais.
premier opus pour le rugby à 7.
Ouais, y a deux points de vue. Il y a le point de vue du. Il y a le point de vue de l'expérience. Donc ça, voilà, ça c'est fantastique de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir être là avec tous les plus grands athlètes de la planète. C'est le seul moment où en fait on est presque tous, enfin, entre guillemets, tu vois, presque tous sur le même piédestal, tu vois, que ce soit avec Teddy Riner, avec les frères Karabatic, avec Usain Bolt, on mange dans le même self, on mange dans le même. On dort dans les mêmes endroits, tu vois, et ça, être au même endroit avec tous les plus grands athlètes de la planète, bon, ça, c'est quand même quelque chose que, voilà, bon, ça t'arrive une fois pour déjà les plus chanceux, tu vois. Et puis après, voilà, non, après, il y a la déception du sportif, du compétiteur, quoi, parce que moi, quand je fais une compétition, c'est pour gagner. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, voilà, je l'ai ressenti aussi, tu sais, quand la compète, parce que tu vis dans un monde de fou, tu vois, les jeux. Mais bon, la compète, par exemple, moi, j'avais décidé de. Petite anecdote, tu vois, j'avais décidé, on avait le droit de rester jusqu'à la fin des jeux. Nous, notre compète, elle était au début, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah, vas-y, on va rester jusqu'à la fin, on va profiter. Et puis, ça va être cool, tu vois. Et sauf qu'en fait, bah, voilà, je te dis, j'ai eu le compétiteur en moi qui a repris le dessus. Donc, une fois qu'on a fait deux fois la bringue, tu vois, qu'on a été voir deux, trois compètes. Je me suis retrouvé au milieu du village olympique, tu vois, avec des gens qui étaient aussi encore en compétition, tu vois. Et voilà, et en fait, ma place, elle n'était plus là, tu vois. Ma place, elle était au jeu le temps de la compète. Et voilà, j'étais déçu d'avoir perdu. Et donc, c'est pour ça, c'est toujours mitigé. Mais après, effectivement, si on parle de l'expérience, je regrette rien, c'était énorme. C'était énorme, j'étais en forme. Donc, j'ai pris du plaisir.
Tu as disputé ton dernier tournoi avec le Stade français, c'était en novembre dernier pour la finale du Super
Ouais.
7 à l'Arena. Et tu as été dirigé par ton frère. Alors justement, on va conclure là-dessus parce que j'ai ouvert les débats sur le côté familial qui est essentiel
Ouais.
chez toi et chez vous. Une dernière en famille, ça devait être chouette là quand même, non?
Ah ouais, c'était énorme. Franchement, c'était énorme. C'était, je te dis, autant ça m'a mis mal parce que j'ai pas décidé. C'est dur de pas décider quand est-ce que ça s'arrête avec l'équipe de France, par exemple. Et en fait, ça, je l'ai pris comme une opportunité, en fait, d'un peu décider, tu vois. C'est important pour un sportif de décider. Enfin, je pensais que ça allait m'aider, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, ça m'a permis de vivre un putain de moment parce que Stade français. Parce que Stade français, parce qu'en rugby, en rugby, je suis fidèle, tu vois. J'ai été fidèle en rugby. Et Stade français, et puis ouais, en famille, tu sais, quand t'as la chance de partager ça en famille, tu vois, c'était ouf, la remise de maillot, il y avait Max. En fait, ce qui était énorme, c'est ça, c'est qu'il y avait Max, il y avait Thomas Lombard, il y avait Maniaque, tu vois, il y avait mon frère Boris, il y avait Clémence Gossier aussi, avec qui j'ai partagé le rugby à 7. Puis il y avait tous ces petits, tu vois, qui étaient là, tu sais, c'est des petits parce que j'étais un peu le plus vieux du truc, tu vois, qui me connaissaient un peu déjà, tu vois. Et franchement, non, il y avait que des bons moments, que des bonnes personnes. Et puis j'ai été super reconnaissant par le club, surtout parce que parce que mon frère Boris, il a fait ça. Ben voilà, on est frères, mais de façon professionnelle. Et puis moi, je te dis, dans ma préparation aussi, enfin, je lui ai dit à mon frère, tu vois, j'ai dit, c'est pas parce qu'on est frères que je vais jouer, tu vois. J'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin d'être le meilleur, j'ai besoin que ce soit indiscutable, tu vois. C'est pas qu'une question de.
Dommage.
Le rugby, ouais, le rugby, c'est nous. Enfin, moi, je le vois pas comme ça, tu vois. Et en fait, la chance que j'ai eue aussi, tu vois, c'est effectivement, hein, cette remise de maillot, c'est d'avoir tous ces gens-là. Et en fait, c'est d'avoir eu, tu vois, dans ma tête, c'était ça, en fait. En face de moi, j'avais Mal Swazili qui m'a donné ma chance quand j'étais rien du tout. Et en fait, et j'avais aussi Thomas Lombard qui m'a donné une seconde chance de terminer, tu vois. Alors que j'étais déjà, tu vois, dans ma tête, j'étais déjà plus rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était beau, tu vois. Et puis, il y avait mes favoris. Et puis, bah, il y avait les parents qui étaient venus pour l'événement, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir une belle dernière plutôt que de partir de Marcoussis avec mes cartons tout seul, tu vois, comme un clan d'eau, tu vois, comme quand je suis arrivé. Mais en même temps, ça me va bien, tu vois. Et non, j'ai eu cette dernière étincelle, tu vois, qui était plutôt belle. Et voilà, ça, c'était bien, tu vois.
Un joli sourire, en tout cas, pour conclure ce podcast. Une belle image.
Ouais.
Terry, je suis désolé, mais dans Poulain Rafut, le mot de la fin, il n'est jamais pour l'invité, aussi prestigieux soit-il, il est toujours pour la star mondiale, la star internationale, la star planétaire qu'est Raphaël Poulain. Et Raph, un mot de conclusion rapide par rapport à cet échange qu'on vient d'avoir avec Terry. De l'extérieur, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de Raph Poulain aussi en Terry et vice-versa, non?
Terry l'a dit en fait, ce qui nous réunit c'est l'humain, c'est la sensibilité, je pense la vulnérabilité. Et dans ce milieu de bonhomme, justement, quand tu es vulnérable, on te dit que tu es faible. Bah, au contraire, nous, on est allé voir un peu ce qui se passe dans ce que les religions appellent l'enfer, en fait. On en est revenu et c'est là où on est d'autant plus puissant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui à travers tout ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça qu'avec Terry, c'est une forme d'amitié qui est assez spéciale parce qu'on n'a rien à se prouver et que c'est assez cool parce qu'on se rend compte, en fait, que dans la forme, on a nos vies particulières, mais dans le fond, on a la même. Et puis voilà, et donc on est au soutien l'un de l'autre, alors quand il faut peut-être, je ne sais pas. Mais typiquement, je pense que ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de transmettre, et tu l'as bien fait, Terry. Donc c'est le but aussi de Poulain Rafut, c'est d'aller chercher des mecs et des nanas qui soient inspirantes et inspirants. Donc tu l'as été, à mon avis, pour une génération sur le terrain et en dehors, parce que le fait de parler aussi du fond de la gamelle, c'est rare. Et c'est d'autant plus rare qu'il faut en parler, parce que ça arrive à toutes et à tous. Donc merci de ton témoignage, mon poulet. Et on va revenir te voir. De toute façon, on va suivre maintenant le rugby au Mexique. Attends, on n'a plus le choix, là. Hein.
Oui, il n'y a pas de problème. Alors, vous n'allez pas perdre trop de temps non plus, mais
Bon, en tout cas,
moi, je suis là.
je suis persuadé que effectivement, ce podcast devrait inspirer plus d'un de nos auditeurs ou tous ceux, les jeunes joueurs qui viendront écouter ce témoignage fort et puissant de Terry Bourawa, je rappelle, donc directeur sportif des équipes de Mexique à 7. On te souhaite évidemment une longue et belle route, Terry, et nous, Raph, on va enchaîner avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie dans Poulain Rafut, Raph, d'abord un coup de cœur pour l'équipe de France de rugby fauteuil, une équipe de France de rugby fauteuil qui a réussi à conserver son titre de championne d'Europe. C'était le week-end dernier à Cardiff, au Pays de Galles. Une victoire en finale devant la Grande-Bretagne, 55 pardon, à 49 pour un doublé historique. Ça valait bien un coup de cœur, Raph. Hein.
Ouais, carrément, c'est une victoire en tout cas qui fait du bien pour les hommes d'Adrien Salmain qu'on avait reçu dans Poulain Rafut il y a un an, à peu près jour pour jour. Elle fait du bien, d'autant plus que elle a gagné cette coupe en plus chez les Anglais, pays hôte. Souvenons-nous justement de la victoire du 15 de France en Angleterre, ça fait toujours du bien à l'ego. Et puis voilà, le pays hôte de la Coupe d'Europe et champion olympique en titre, faut le dire. Adrien nous expliquait que le rugby fauteuil est de plus en plus reconnu dans l'Hexagone et le premier titre historique de l'année dernière à Paris a confirmé qu'il n'y a pas que le 15 de France masculin et féminin qui cartonne en ce moment. Les Bleus ont battu, comme tu le disais, Arnaud, en demi-finale et finaliste de l'an dernier, le Danemark pour s'imposer 55-49, comme tu le disais, face aux Anglais. À un an des JO, les Français ont donc rappelé à Cardiff qu'il faudra compter sur eux pour les JO à Paris.
Enfin, Raph, un dernier hommage. Le mardi 2 mai, un ancien grand dirigeant du rugby français s'est éteint. Bernard Lapasset, ancien président de la FFR et de World Rugby, ancien coprésident du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bernard Lapasset est donc décédé à l'âge de 75 ans et tu voulais lui rendre hommage, je crois, Raph.
Oui, parce que Arnaud, j'ai commencé le rugby en 87 à 7 ans, et puis c'est un personnage historique au-delà des joueurs qu'on a vus sur le terrain. C'est lui qu'on a vu aux côtés de Nelson Mandela donner la coupe au Sud-Africain. Et j'avais 15 ans et j'étais assez fier de me dire qu'il y avait un Français sur le podium, naïf que j'étais, bien sûr, Bernard Lapassé. C'est lui aussi, alors, c'est pas un palmarès, mais c'est un grand, grand dirigeant du rugby français. Il a dirigé le comité d'Île-de-France, puis la FFR, World Rugby. C'est en partie grâce à lui que les JO en 2024 sont parisiens. Il était le fils spirituel de Ferras. Alors, ceux des moins de 20 ans et des moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais M. Ferras était quand même un dieu sur terre. Il est devenu au fil du temps un incontournable monsieur du rugby mondial. Il a fait beaucoup de bien au rugby français. Et je trouve qu'il avait une posture, une stature, une dimension un peu, alors physique, attention, hein, il était deuxième ligne, à la De Gaulle. Et voilà, quelques mots sur un des messieurs, qui m'a fait découvrir et qui m'a fait aimer le rugby. Donc, bien sûr qu'on lui rend hommage et puis qu'on espère avoir des présidents de sa trempe dans le futur.
On lui dédie évidemment hein, cet épisode de Poulain Rafut. Ses obsèques se sont déroulées ce mardi matin. Et il sera inhumé dans son village natal à Louis. Raph, c'est tout pour aujourd'hui. On garde évidemment quand même la banane et on se retrouve la semaine prochaine toujours sur la plateforme d'Eurosport et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. On l'a dit, hein, de Deezer à Spotify en passant par Avast, ou Apple Podcast.
Ouais, merci beaucoup Arnaud. Merci aussi à Sébastien Petit qui a réalisé cette émission. Et très très bon week-end rugby. On se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao.